Les secrets des amis de Versailles.
Chut. Panorama 2. Des jardins qui ne comptent pas pour rien.
Minerve Express.
Où l'on découvre que certaines statues voyagent même sans pied.
Elle trône majestueuse dans le bosquet de la Girandole. On la croirait faite pour Versailles. Et pourtant, cette statue de Minerve a fait un bien long voyage avant d'arriver là. Tout commence à la fin des années 1650. Nicolas Fouquet, ministre de Louis XIV, a un grand projet. Réaliser un château d'exception pour organiser des fêtes splendides et pour faire rayonner sa propre gloire. Ce palais des réjouissances, ce sera Vaux-le-Vicomte. Il fait alors appel à un peintre très célèbre, Nicolas Poussin. Mais celui-ci est à Rome, en Italie. Heureusement, la distance n'effraie ni le mécène, ni l'artiste. Et ce dernier travaille avec cœur pour satisfaire le ministre de Louis XIV. Poussin hérite d'une mission toute particulière. Il sera chef de chantier, spécialité sculpture, à la tête d'un bataillon d'artistes. Il conçoit des modèles de statues que des Italiens sculptent ensuite dans le marbre. Les œuvres sont alors envoyées en France, et Fouquet n'a plus qu'à les disposer à sa guise dans les jardins de son château. La statue de Minerve, taillée par le sculpteur Domenico Guidi sur les indications de Poussin, fait partie de ce beau projet. Comment reconnaître la déesse de la guerre d'ailleurs ? Facile, elle porte un casque sur la tête. Mais elle ne serait pas un peu curieuse tout de même ? Eh oui, elle n'a pas de jambes. Elle appartient à un type de buste sculpté que l'on appelle un terme. C'est pour cette raison que sa partie inférieure se termine en piédestal. En fait, c'est une référence à l'Antiquité. Du plus grand chic pour l'époque. Hélas, Fouquet est bientôt disgracié par le roi puis jeté en prison. Tant de faste a déplu à Louis XIV. Ce dernier, cependant, admire la splendeur des œuvres créées pour Vaux-le-Vicomte. Les artistes au service de Fouquet évitent donc le chômage. Le souverain français les met à son service sur le chantier de Versailles. Quant à la Minerve, qu'il avait admirée dans les jardins de son ministre, elle finit par orner le parc de Louis XIV.
L'usure du temps exige de protéger ses chefs-d'œuvre des jardins. Grâce aux amis de Versailles, cette Minerve a été restaurée puis mise à l'abri. Mais elle n'a pas quitté le bosquet de la Girandole pour autant. Une copie la remplace depuis 2016.
Mais il est où ce jardin ?
Où l'on découvre une peinture qui fait voyager dans le temps. Imaginez un joli bosquet, avec des jets d'eau impressionnants. Mais oui, nous voilà dans un jardin digne de Versailles. Tout à fait dans le style de ceux que le jardinier Lenôtre avait conçu pour Louis XIV. C'est ce que représente un tableau d'Étienne Allegrain. Pourtant, vous aurez beau chercher dans le parc du château, aucun endroit ne lui ressemble. Ce bosquet serait-il sorti de l'imagination du peintre ? Faisons un petit retour dans le temps. Nous sommes en 1688, et Louis XIV aime se délasser à Trianon. C'est un petit château entouré d'un parc qui lui sert de refuge champêtre. Mais comment en décorer l'intérieur ? Le souverain a son idée. Pour orner une galerie qui relie deux corps de bâtiments, il commande 24 tableaux représentant les jardins de Versailles. Tous sont réalisés par les meilleurs artistes paysagers du temps, comme Cottel ou Allegrain. Grâce à eux, la nature envahit les murs du château. Sur sa toile, Allegrain peint le bosquet dit « de la salle des festins ». Il s'agit d'une île entourée d'un canal rythmé par près de 50 jets d'eau. Pour que l'on comprenne bien la démesure des fontaines, il ajoute de minuscules promeneurs. Et si l'on regarde bien, on y voit même Louis XIV. Dans le fond du tableau, il donne la main à une mystérieuse dame masquée. Car ce bosquet, Allegrain ne l'a pas inventé. Au moment où il a peint son tableau, le lieu existait encore. Conçu par Lenôtre, il a été détruit au début du XVIIIe siècle, quelques années seulement après la réalisation de la peinture. Voilà comment, de simple décor, le tableau d'Allegrain est devenu autre chose, le dernier témoin du bosquet de la salle des festins.
Cette peinture d'Allegrain, la Société des Amis de Versailles en a financé la restauration en 2018, en même temps que celle de 6 tableaux de Cottel. Ainsi, ces prestigieux tableaux se sont montrés sous leurs meilleurs jours pour l'exposition consacrée à ce dernier.
Avis de tempête ! Où l'on retrouve l'harmonie grâce à un cataclysme.
Voilà 2 heures que le vent souffle sur Versailles. En cette nuit du 25 au 26 décembre 1999, les rafales atteignent une violence folle. Et le lendemain matin, c'est la consternation. Les jardiniers découvrent un désastre qui leur sabre durablement le moral. Le parc est dans un état catastrophique. Tout est à reconstruire. À l'époque, le découragement règne. Et il y a de quoi être abattu, en effet. Pourtant, cette catastrophe va être une véritable opportunité. Après la tempête, près de 20 000 arbres sont à terre. Ou, s'ils ne le sont pas, on sait qu'ils ne survivront pas et qu'il vaut mieux les couper. Des bosquets entiers sont inaccessibles. On doit même appeler l'armée pour les dégager. La mort du plus vieil arbre du parc, un chêne planté 3 siècles plus tôt sous le règne de Louis XIV, devient le symbole de tout ce qui a disparu. Heureusement, une souscription permet de récolter plusieurs millions d'euros. C'est assez pour lancer un gigantesque chantier. Plein d'audace, l'architecte en chef des monuments historiques prend une décision grandiose. Pour redonner sa splendeur au parc de Versailles, ils ne vont pas se contenter de planter des milliers d'arbres. Non, ils vont faire ressurgir les jardins tels qu'ils étaient au temps de Louis XIV. On décide entre autres de recréer le bosquet des Trois Fontaines qui était peu à peu tombé dans l'oubli, à tel point qu'il avait même totalement disparu. Grâce à des documents d'époque et des fouilles archéologiques du site, on reconstitue l'état d'origine de ce très spectaculaire bosquet.
Et la résurrection de ce bosquet des Trois Fontaines est une réalité depuis 2002, grâce à la générosité des American Friends of Versailles, en collaboration avec la Société des Amis de Versailles.
Venise n'est pas en Italie.
Où l'on découvre un roi qui a le pied marin d'eau douce.
Promenons-nous au bord du Grand Canal de Versailles. Nous croisons un ensemble de bâtiments qui répondent à un nom curieux, la Petite Venise. Pourquoi le roi de France Louis XIV a-t-il choisi de donner ce nom à une partie de son domaine royal ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser au Grand Canal lui-même. Réalisé en 1668 par le jardinier André Lenôtre, c'est un immense bassin. 1670 mètres de long, tout de même. Louis XIV a voulu cette pièce d'eau démesurée pour structurer et magnifier les jardins de Versailles. Rapidement, le canal devient son terrain de jeu favori. Le roi, qui ne fait jamais vraiment les choses à moitié, se commande une flotte miniature qu'il adore regarder voguer au fil de l'eau. Sur son canal, il aligne fièrement un grand navire à 3 mâts, un petit navire de guerre et quelques chaloupes. Mais ce n'est pas tout. Des gondoles vénitiennes font également partie du paysage. Offertes par la République de Venise, elles viennent égayer les eaux de Versailles et font la grande joie du roi. En plus, la Cité des Doges a généreusement envoyé d'authentiques gondoliers italiens. Pour manœuvrer ces embarcations si particulières, il n'y a pas plus habile qu'eux. Versailles devient alors un vrai repère de matelots, auquel, bien sûr, il faut trouver un logement. Le roi fait donc construire un ensemble de maisons pour ceux qui pilotent et entretiennent sa flotte miniature. Et pour remercier la République de Venise, il donne à son lotissement pour marins ce nom de Petite Venise. CQFD.
Et après Louis XIV, le Grand Canal est-il resté un lieu où naviguer ? Absolument ! Marie-Antoinette possédait, par exemple, un luxueux canot sur lequel une cabine vitrée lui était réservée. Découvert à la fin du XIXe siècle, les vestiges de cette embarcation étaient conservés depuis au musée de la Marine. Leur retour à Versailles méritait bien une restauration, que les Amis de Versailles ont eu l'honneur de financer dans le cadre du programme Mécénat des jeunes amis du château. Ainsi, les visiteurs peuvent s'imaginer les navigations de la dernière reine de France, en découvrant ce magnifique canot désormais exposé dans la Galerie des Carrosses.